Retour sur les violences à Thiot hier. Le procureur de la République est revenu sur les agressions dont ont été victimes les gendarmes et sur les circonstances qui ont conduit à la mort d'un émeutier. La Chambre d'agriculture et de la pêche change de braquet et s'adapte à la crise. Pour faire face aux conséquences des émeutes, elle privilégie une stratégie de mise en marché à une stratégie de développement de ses filières. Trouver de nouveaux débouchés et prospecter, c'est la volonté des exposants au Salon de l'artisanat calédonien ouvert pour la deuxième journée à Nouville. Dans l'attente d'un signe, c'est le signe du dernier album du groupe Kaori qui est invité de ce journal. En métropole, les experts sont unanimes. La thèse d'une défaillance technique est peu probable dans le crash entre deux avions de chasse Rafale. En sport, Demi Vollering, favorite du Tour de France cycliste féminin, chute à 6 km de l'arrivée de la cinquième étape. Elle est repartie, mais elle a perdu son maillot jaune. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la fin de cette édition, on retrouvera le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera cette semaine Jacques Lallier.
Oui, c'est le président de la province des îles qui sera l'invité du magazine Transparence. Nous l'interrogerons sur la situation de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr depuis le 13 mai, sur les conséquences aussi dans sa province, et puis sur la manière dont il envisage l'avenir. On se retrouve d'ici une petite demi-heure en compagnie de Jacques Lallier, le président de la province des îles.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, c'est évidemment le Club politique Radio Rythme Bleu à 16h45.
Avec au sommaire, comme d'habitude maintenant, l'analyse de la situation sur le terrain. L'État affirme que la situation continue de s'améliorer, mais il y a encore de fortes tensions, avec notamment la mort d'un émeutier hier à Thiot ou l'incendie de l'église de Thiers. Nous reviendrons aussi sur la décision de la France d'autoriser une mission du Forum des îles du Pacifique. Le président de la République a-t-il eu raison de l'accepter et à quoi cela peut-il aboutir? Et puis nous parlerons de l'actualité politique nationale avec le retour à la réalité en métropole après les Jeux Olympiques, alors qu'il n'y a toujours pas de gouvernement de plein exercice. Un club politique qui débute, vous le disiez, à 16h45, il est rediffusé le samedi matin à partir de 11h.
Ce devait être une opération de déblaiement de route ordinaire. Hier à Thiot, les gendarmes ont finalement été pris à partie par un groupe extrêmement hostile et violent. D'abord visés par des jets de pierre, ils ont reçu des cocktails Molotov avant d'essuyer des tirs par arme à feu. Ils ont donc riposté. Un émeutier touché à la tête est décédé lors de son transfert vers le CHT. Il s'agit d'un homme de 43 ans résident à Thiot. Un autre a été touché au cou et son pronostic vital est toujours engagé ce matin. Le procureur de la République, Yves Dupas, indique que cette opération de déblayage avait été préparée à l'avance, notamment avec les autorités coutumières.
Cette mission, elle était plutôt classique, et un travail avait été mené en amont avec les coutumiers par la gendarmerie de manière à libérer cet axe. Après, effectivement, une concertation, mais les gendarmes qui remplissaient leur mission, qui consistait à libérer les axes de la route, ont été visés par des projections de pierres, des cocktails Molotov et plusieurs tirs d'armes à feu. Ce groupe d'individus s'est montré particulièrement hostile, et vraiment dans la recherche d'une confrontation, et dans la volonté de s'en prendre à l'intégrité physique des gendarmes. Et ceci, c'est totalement inacceptable dans un état de droit.
Trois enquêtes ont été ouvertes, notamment pour savoir si l'usage des armes de service par les gendarmes constitue ou non une riposte légitime et proportionnée à l'attaque dont ils ont été la cible. Une procédure automatique, explique Yves Dupas.
C'est une procédure tout à fait normale. Dans une démocratie, effectivement, eh bien, il est tout à fait... impératif de vérifier par rapport aux forces de l'ordre les circonstances, les conditions de l'usage des armes. Et donc le parquet s'est appuyé sur cette inspection générale de la gendarmerie nationale avec effectivement des enquêteurs du bureau d'enquête judiciaire de ce service pour vérifier cet usage des armes et pour permettre au parquet d'orienter cette procédure. À ce stade, la riposte, effectivement, semble tout à fait légitime, mais encore faut-il, bien évidemment, faire un certain nombre de vérifications. C'est le sens de cette enquête.
Ces faits d'une extrême violence hier matin ont été accompagnés par de nombreuses exactions. Une fois encore, les installations de la SLN ont été victimes d'incendies et de dégradations. À Poya, les gendarmes sont en train de déblayer les restes de barrages mis en place ces derniers jours par les émeutiers. La situation est calme après trois jours tendus au cours desquels une dizaine de gendarmes a été blessée. Et puis un nouvel incendie à la société Le Froid. Un panache de fumée s'est dégagé de l'usine qui a été parmi les premières à être détruite par les émeutiers dès le 13 mai. Les pompiers sont intervenus rapidement ce matin, même si ce feu ne présentait pas de danger immédiat. Écoutez le capitaine Anthony Guépy.
On a été appelé sur les coups de 10h pour une fumée s'échappant du bâtiment. C'est des détritus qui ont été rajoutés bien souvent et avec un nouvel allumage. On savait en arrivant que tout avait déjà brûlé, donc il y avait très peu de risques. Les produits dangereux ont déjà été extraits par la société, tout a été dégazé. On sait que le risque de propagation, il n'y est pas. C'est quelque chose qui est déjà brûlé, donc il n'y a plus grand-chose à brûler. On a envoyé effectivement un fourgon avec la chaîne de commandement et les attaques ont été assez rapides et la maîtrise du feu assez rapide également.
L'intervention s'est déroulée de manière sereine avec toutefois, comme à l'accoutumée, le renfort des forces de l'ordre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Au lendemain de l'Assomption, pensez-vous que la religion peut avoir un rôle dans la résolution de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. L'État suit de près la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Même démissionnaire, le gouvernement continue d'être proactif sur ce dossier qui est considéré comme une urgence. Une mission vient de passer une semaine sur le territoire à la rencontre des acteurs économiques, Nicolas Legrand.
Oui, et chaque semaine, depuis le début de cette crise, le ministère de l'Économie et des Finances organise d'ailleurs des visioconférences avec le monde économique calédonien. L'objectif est de faire un état des lieux régulier, mais aussi d'adapter les dispositifs d'aide. Claire Durieux est la conseillère auprès du ministre Bruno Le Maire qui s'occupe de ce dossier. C'est elle qui suit tout particulièrement ce dossier à Bercy. Elle vient d'ailleurs d'achever cette visite sur le territoire.
Le ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire, depuis le début des émeutes, a souhaité qu'il y ait un suivi extrêmement resserré. On savait que la situation était grave. C'est pour ça qu'on a agi très vite. Le fonds de solidarité État, il a été créé de toutes pièces et mis sur place en 2 semaines. Le prêt garanti aussi par l'État pour la reconstruction, on l'a mis en place extrêmement vite. On a mis en place des lignes de financement avec l'IOM à taux zéro. Donc les versements très importants qui ont été faits par l'État au gouvernement de Nouvelle-Calédonie afin d'assurer la continuité des services publics, le versement des prestations sociales, le fonctionnement du système électrique de Nouvelle-Calédonie qui continue à fonctionner grâce à l'aide de l'État depuis juillet. En même pas quelques semaines, il y avait 3 ou 4 dispositifs qui ont été mis. Donc on se rendait compte quand même de la gravité de la situation. On était présents. Le soutien de l'État à l'économie de Nouvelle-Calédonie est constant et total.
Et ces dispositifs d'aide d'urgence ont évolué avec le temps. Et le séjour que vient de passer Claire Durieux à Nouméa va lui permettre de faire de nouvelles propositions, notamment pour réformer en profondeur le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie.
Rien ne remplace le terrain. Il y a des choses dont on ne peut pas se douter tant qu'on n'est pas venu. Effectivement, c'est très visuel. Donc on voit visuellement, on entend les récits de ce qui s'est passé, de comment les gens se sont organisés. Et c'est très utile pour l'adaptation des prochains dispositifs. C'est aussi très utile pour sentir l'état d'esprit. On sent une envie d'avancer. Les discussions que j'ai eues, y compris avec le président du gouvernement, avec les élus de tous bords politiques et les chefs d'entreprise, me font penser que il y a une prise de conscience de ce qui doit être fait pour améliorer le modèle économique. Malheureusement, la crise, elle date pas du 13 mai. Les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie étaient déjà en très grande difficulté avant la crise. Et donc c'est pour ça qu'on parle de nécessité d'évolution du modèle économique et social, puisque même sans la crise, ça aurait été nécessaire. Mais avec la crise qui a pour l'instant conjoncturellement appauvri le territoire, ça devient indispensable.
Claire Durieux affirme que l'État se tiendra aux côtés de la Nouvelle-Calédonie pour accompagner les réformes nécessaires au territoire.
Il est 11h39, une première pause dans ce journal. Les émeutes et leurs conséquences, nous en parlons après la pause et avec la Chambre d'agriculture et de la pêche qui est obligée de changer de stratégie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
En ce moment et jusqu'au 31 août chez Subaru, roulez maintenant et commencez à payer seulement en 2025. Et oui, pour l'achat de votre Subaru Crosstrek, Forester ou Outback, Subaru Nouvelle-Calédonie vous offre 3 mois de paiement différé plus 3 mois de loyer. Donc, vous ne commencez à payer que dans 6 mois, c'est-à-dire en 2025. Alors, pour quel Subaru allez-vous craquer ? Le Crosstrek à 79 900 francs par mois, le Forester à 89 200 francs par mois ou l'Outback à 129 900 francs par mois ? Pour profiter de cette offre Subaru incroyable, rendez-vous au Village Automobile ou chez NC Motors à Koné. Offre valable jusqu'au 31 août 2024 en partenariat avec Socalfi. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager, voire conditions en concession ou sur subaru.nc. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La Chambre de l'agriculture et de la pêche s'adapte donc à la crise et change de stratégie. Concentrée jusque-là sur le développement de ses filières, elle vise désormais la mise sur le marché de ses produits, Isabelle Pelletier.
De nombreuses surfaces commerciales ont moins, des départs en cascade et une baisse globale de pouvoir d'achat. Les produits maraîchers qui arrivent bientôt en pic de production pourraient connaître des problèmes d'écoulement à court et moyen terme. Les précisions de Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche.
On rencontre à présent sur la filière, les filières végétales en particulier, la problématique de la mise en marché, puisque on a donc la conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, la production, on est en phase de l'année où la production augmente. On n'est pas encore au pic, hein, puisque c'est à partir de septembre-octobre qu'on sera au pic. Et par rapport à ça, vous avez les circuits de distribution classiques qui sont totalement bouleversés, puisqu'on a 20 000 m² de surface commerciale qui ont été détruites dans le Grand Nouméa. Vous avez donc une partie des consommateurs qui sont partis et d'autres qui s'en vont encore, donc qui sont des consommateurs de produits frais. Et puis, on a quand même, on le voit bien, une perte de pouvoir d'achat de manière globale, ce qui fait qu'on a une problématique aujourd'hui entre la production, l'offre et la demande, qui va nous poser problème dans les semaines et mois à venir. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture et de la pêche oriente sa stratégie vers la mise en marché. Et cela passe par le développement de marchés de producteurs.
Les marchés de proximité où la production maraîchère est vendue au plus près des consommateurs au meilleur prix. Le concept est déjà développé à Bouraille, à La Foix, à Dambéa et aussi au Mont d'Or Sud où les producteurs de cette zone, bloqués par la RP1 à hauteur de Saint-Louis, écoulent sur place leurs marchandises. Toujours en raison de l'inadéquation entre l'offre et la demande conséquente à la période insurrectionnelle, la filière viande, notamment celle du bœuf, va être touchée à la fin de l'année avec 1000 tonnes de surplus à écouler. On retrouve Jean-Christophe Niotou.
En année normale, notre taux de couverture sur la viande de porc était à 100% et sur la viande de, donc bovine était de l'ordre de 60%. Donc on avait un delta en importation sur la viande bovine, notamment sur des morceaux nobles, hein, comme l'entrecôte par exemple, mais d'autres morceaux. Et effectivement, donc là on va avoir environ plus de 1000 tonnes de viande supplémentaire. Donc il va falloir effectivement qu'on limite les importations pour qu'on consomme local. Donc il s'agit aussi de mettre en avant cette très très bonne viande de bonne qualité calédonienne pour qu'elle soit donc, privilégiée par les consommateurs calédoniens.
Enfin, un coup dur va être porté en fin d'année à la filière de la pêche hauturière avec l'arrêt de la desserte nippone par Air Calin. Le Japon pèse à lui seul 80% des exportations de thon jaune et rouge et représente un manque à gagner très lourd pour la filière.
Chaque année, entre 250 et 300 tonnes de thon frais de haute qualité sont livrées sur le marché japonais. Un marché qui, vous le savez, est friand de produits de qualité et qui le paye bien. Et donc, on parle là d'un manque à gagner de l'ordre de 250 millions pour la filière hauturière, ce qui revient à dire que la filière sera en très très grande difficulté si on enlève effectivement cette distribution sur le marché japonais. Donc ça nous inquiète beaucoup pour nos armements de pêche qui étaient déjà en difficulté, notamment depuis quelques années avec l'augmentation du prix du carburant. Sur le marché local, on va aussi se retrouver avec une consommation qui va être réduite et donc du thon blanc et du thon jaune qui aura du mal aussi à trouver sa place sur le marché.
Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche. La Chambre de l'agriculture qui va là aussi devoir trouver des filières pour écouler cette protéine locale de très haute qualité qu'est le thon. La pêche côtière a d'ailleurs elle aussi commencé à développer ses marchés de proximité. La Chambre prévoit elle deux gros marchés en septembre, le premier à Bouraille le 7 et le second à Ducos le 14 septembre, pour lequel est prévu le doublement des surfaces des exposants.
Mais rappelons que c'est lors de ce long week-end du 15 août que devait se tenir la foire de Bouraille, plus important événement de brousse qui rassemble 25 000 personnes chaque année et sert d'écrin à l'agriculture et à l'élevage. La foire de Bouraille, qui n'a jusque-là jamais été annulée, devrait se tenir le week-end du 11 novembre, une date qui reste à confirmer. Plus de 80 stands rassemblés à la Maison des Artisans depuis hier matin et jusqu'à dimanche, sur place de nombreux artisans, mais le salon s'est aussi ouvert cette année à d'autres commerçants qui proposent d'autres types de marchandises, Charlotte Coulson.
Oui, ils étaient nombreux ce matin, les vendeurs de carports, de spa-pools, de moteurs de portail ou encore de panneaux photovoltaïques. Ils ne sont pas des artisans, mais s'installent cette année au salon pour tenter de relancer leur économie, mise à mal depuis le 13 mai. Sur place étaient présents Benjamin Lavigne, gérant de Jardispa, et Eric de l'entreprise de motorisation solaire Simple Life.
Alors, nous déjà, on est présents sur ce type de salon, pas nécessairement pour vendre, mais pour se faire voir. Les produits que je vends, c'est pas de la vente, c'est pas comme des plantes ou de l'artisanat, on est sur de l'investissement. Depuis, on va dire juin, on a le retour du prospect qui arrive, qui vient, qui regarde, qui s'intéresse, ça nous fait très plaisir. Mais la démarche de vente, on se rend compte qu'on vend beaucoup plus à des personnes qui vont avoir un côté très confiant sur l'avenir et... Je suis plutôt content là-dessus. On a une multiplication de ces gens-là.
Nous, on est micro-entreprise, on va dire, patenté. Mais on s'est mis là parce que c'était l'occasion pour cette année un peu trouble. Ah ben nous, motorisation de portail, je veux dire, c'est pas une nécessité. On a essayé de relancer, puis on n'a pas bossé pendant 3 mois. Donc c'est l'occasion de recommencer un petit peu, de remettre sur le marché.
Une reprise qui se fera non sans effort de la part de ces commerçants qui adaptent leurs tarifs aux moyens de leur clientèle pour soutenir la relance économique. C'est le cas de l'entreprise Jardispa, Senzil Pacific, qui travaille dans le solaire, et de l'entreprise NEC de nettoyage extérieur calédonien.
Moi, je propose jusqu'à moins 300 000 francs, voire moins 400 000 francs sur les produits, ce qui est tout à fait normal aussi. On est dans une période qui est très particulière. Donc, pour pouvoir continuer à avoir une activité qui tourne, il faut qu'on mette en place des mesures particulières. Et c'est vrai que du coup, ces mesures, elles sont sur à la fois nos marges. J'ai des produits que je vends presque au prix de revient.
Ben, on a revu nos prix pour tout ce qui est batterie. On essaie de faire un effort. Et pareil, on fait des réductions salon, spécifiques salon pour les installations qui peuvent aller jusqu'à 100 000 francs.
Alors, au-delà de... pouvoir se le permettre, on n'a pas vraiment le choix. L'économie est un petit peu fatiguée ces temps-ci. En effet, là, on fait des prix pour le salon jusqu'à moins 20%. Hein. Nouvelle entreprise oblige, on doit se faire connaître. Et d'autant plus, voilà, on est là pour ce fait.
Le Salon des Artisans est ouvert jusqu'à samedi de 8h30 à 16h et dimanche de 8h30 à midi. Et c'est à la Maison des Artisans à Nouville.
Dans l'attente d'un signe, est-ce un titre prémonitoire ? C'est en tout cas le titre du dernier album du groupe Kaori qui sort aujourd'hui. Le groupe Kaori qui est notre invité et qui va être interrogé par Bruno Rebelle, notre directeur d'antenne. Bonjour Bruno.
Bonjour Jean-François, bonjour Kaori.
Bonjour à vous.
Alors Kaori, ils seront deux. Hein.
Oui, on va donner leur prénom parce que...
Alors Thierry c'est le chanteur. Hein, voilà. Et puis Kiki, à droite, qui est un guitariste hors pair, voilà, celui qui apporte ce son si particulier à ce duo mondorien redoutable. Que les auditeurs d'RRB commencent bien à connaître maintenant, mais que le public européen, métropolitain, en Belgique, va pas tarder à découvrir parce que vous partez ensuite pour une tournée, enfin en tout cas médiatique déjà, en métropole le mois prochain.
Oui, complètement. Ben, bonjour aux auditeurs. Donc, le mois prochain, on part en Belgique pour un concert à Namur. Et donc, avec des musiciens namurois. Et ensuite, on finira notre tournée à Paris, au rue des Lombards, au 107 Saint-Marie à Paris.
Dans le quartier des Halles. Et puis, médiatique, je le disais également, interviewé par pas mal de radios, de télé qui vont vous programmer.
Voilà, on passera sur les radios connues, hein, nationales, parisiennes. Donc on a un périple promotionnel qui sera composé, ben, comme l'a précisé Kiki, de concerts, avec des dates intermédiaires, ça c'est les deux grosses dates qu'on a, et puis des interviews, hein, radio, des quelques lives, on vous communiquera le détail.
Bien sûr, on va vous suivre dans votre périple. Jean-François le précisait, l'album s'appelle « Dans l'attente d'un signe », un album qui est prêt depuis... pas mal de mois, j'imagine que la sortie a été un petit peu décalée.
Ben, c'est-à-dire que nous, quand on sort un album, il y a le Covid. Après, ça c'était en 2019. Ensuite, il y a ce qu'on a vécu là. Et puis, vraiment, on a peur de sortir le quatrième, quoi. Qu'est-ce que ça va être ?
Attendez un peu, oui.
Alors, dans cet album, il y a la crème des musiciens parisiens... Et puis, vous pouvez nous en parler un petit peu d'ailleurs, tiens.
Oui, tout à fait. C'est des amis maintenant, parce que ça fait le troisième qui enregistre avec nous, le troisième album. Ils sont toujours avec nous, donc des grands comme Dominique Bertram, comme Claude Egea, comme.
Kaufmann,
voilà. Jean-Luc Kaufmann, voilà.
Lafont. Enfin, c'est les musiciens des grandes stars qui nous font l'honneur de venir nous donner un petit coup de main. Sur cet album, et je pense que ça s'entend quand même.
Ben justement, on va vous le prouver, 11 titres hein, dans cet album. Alors, on a préparé un petit cadeau pour nos auditeurs, on a fait un petit medley, un petit mélange. Voici une minute du dernier album de Kaori sur RRB.
Femme, jusqu'au fond de l'âme, tu es femme. Carpe diem, carpe diem, je m'en belle dent dans le fruit de l'instant. Carpe diem, carpe diem, je distille mon élixir de force et du plaisir. On a assez dit demain, c'est aujourd'hui ou jamais. Pour dépasser le passé, pour se prendre en main, se tendre la main, se tendre la main.
Minutes, pile, pas plus, pas moins, de cet album Dans l'attente d'un signe de Kaori. Alors, il faudra attendre lundi. Là, je m'adresse à tous les auditeurs pour découvrir le nouveau single qui s'appelle Ma belle Ilienne. Et puis, vous serez demain à 14h30 en showcase.
Complètement à Cahiers de Livres. À 14h30, on fait un petit showcase pour dédicacer l'album. À ceux qui viendront nous écouter.
Ben, l'appel est lancé, hein, si vous voulez passer un bon moment demain après-midi au centre-ville.
Voilà. On avait prévu le centre culturel du Mont d'Or, mais bon, on a compris. On se rabat, mais c'est très... Nous, ça nous satisfait, c'est un bon lieu de culture, et ça sera une atmosphère intimiste, où on pourra parler avec les gens. Moi, ça nous plaît bien, hein, vous êtes bienvenus.
Un mot sur le titre choisi pour cet album, hein, je le disais, Dans l'attente d'un signe, c'est une chanson, elle a été écrite quand? Est-ce que, voilà, on ne va pas parler forcément de message, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont véhiculées au travers de cet album par rapport à ce que vit la Calédonie aujourd'hui?
Alors on se demande parfois, cette chanson elle a été écrite un 15 août, tiens, ça c'est pas mal.
Voilà,
et on se demande parfois si ce n'est pas la chanson qui s'écrit elle-même. Il y a des moments où, après une maturation, les choses semblent... Il y a une décantation et puis je pense qu'il faut... Il y a un mûrissement et puis il y a une écriture qui est plus facile après un mûrissement. Oui, c'est une chanson qui même à moi me paraît parfois un peu mystérieuse, mais enfin elle est comme ça.
Elle existe.
Voilà.
En tout cas, merci. On va retenir une date. Tiens, je vous donne un petit stock. Kaori sera en live dans les studios d'RRB au retour. Hein, oui. De votre tournée, on a calé la date du 19 décembre. Voilà. Ici, au fond, vous pourrez venir, les auditeurs. Ce sera du live et du sérieux. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Bonne chance pour la promotion de votre album. Voilà. Et on est déjà impatients de vous retrouver.
Bien, merci à
merci
vous.
Merci à rêver.
Le rendez-vous est pris pour le 19 décembre. Il est 11h54. Une nouvelle pause. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Vous savez que vous devez faire contrôler ou changer les pneus de votre véhicule de marque premium, mais savez-vous que Prestige Motors est aussi un service minute de montage de pneumatiques? Un service première classe, rapide, avec de nombreuses références disponibles et sans rendez-vous dédié à tous les véhicules premium. Vous méritez le meilleur, vos pneus aussi. Prestige Motors, au 6e kilomètre. Téléphone 44 30 00.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
En métropole, le ministre démissionnaire de la Défense, Sébastien Lecornu, s'est rendu la nuit dernière pour nous sur la base aérienne de Saint-Dizier, dans les Vosges. Les deux avions Rafale qui se sont percutés en plein vol appartenaient à cette base. Il est encore trop tôt pour savoir réellement ce qui s'est passé et ce qui a provoqué cet accident, heureusement très rare. Selon les spécialistes, comme l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jean-Paul Paloméros, la probabilité d'une défaillance technique est peu plausible.
On ne peut pas exclure un problème technique, mais ce n'est pas le plus vraisemblable. On aurait eu un lancement d'un message d'alerte. Donc, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu peut-être, l'hypothèse, une perte de visuel. Quand on est amené à manœuvrer, ça va très vite. Évidemment, il faut être très attentif. C'est extrêmement rare, fort heureusement, mais le risque zéro n'existe pas. Et c'est là que C'est très important qu'on restitue les trajectoires à l'aide des enregistreurs de vol, qui sont très précis. Qui plus est, l'armée de l'air aura le témoignage du pilote rescapé. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'on ait un débriefing complet et très précis de ce qui s'est passé. C'est l'affaire de quelques semaines.
Cet accident a coûté la vie, rappelons-le, à un élève pilote de chasse et son instructeur. Le pilote du second appareil qui a pu s'éjecter à temps a lui été légèrement blessé. Emmanuel Macron, dont on attend toujours qu'il nomme son Premier ministre, a présidé la nuit dernière pour nous la cérémonie du 80e anniversaire du débarquement allié en Provence. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans les étrangers et les tirailleurs étrangers, a dit le chef de l'État. Cérémonie qui s'est déroulée à la nécropole de Boularis, près de Saint-Raphaël, en présence du président camerounais et de représentants des gouvernements du Gabon, des Comores, de Centrafrique, du Togo et du Maroc. L'Afrique, où la résurgence du virus Mpox suscite beaucoup d'inquiétudes, autrement appelé variole du singe, il fait des ravages dans plusieurs pays. Plus inquiétant, un cas importé, plus contagieux et plus dangereux que la cellule souche a été découvert en Suède sur un homme qui revenait d'un voyage en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte. Paul Watson n'est toujours pas fixé sur son sort. Arrêté le 21 juillet au Groenland, l'activiste et fondateur de Sea Shepherd a comparu devant la cour d'appel du Groenland qui a décidé de le maintenir provisoirement en détention. Il ne sait donc toujours pas s'il sera extradé ou non vers le Japon. Les explications de Maxime Gondelot pour Europe 1.
Si la cour d'appel du Groenland a décidé de le maintenir en détention provisoire, c'est uniquement pour éviter que Paul Watson ne s'échappe avant la décision finale concernant son extradition. Une demande formulée par le Japon depuis 12 ans, le pays du soleil levant l'accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier en 2010. Il risque une peine d'emprisonnement de 15 ans sur place et une amende pouvant atteindre 500 000 yens, soit environ 3 000 euros. Lamia Essemlali est présidente de Sea Shepherd France. Elle était présente lors de l'audience tout à l'heure. Elle trouve sa décision injuste.
On n'est pas si étonné que ça, malheureusement, de l'issue. Par contre, la façon dont l'audience s'est déroulée est vraiment scandaleuse. Il n'a même pas eu le droit à un interprète. 99% du temps, on ne comprenait strictement rien à ce qui se disait. L'autre élément très problématique, c'est que le juge a refusé de visionner les preuves vidéo qui font la démonstration qu'en fait le Japon a falsifié des preuves. On a tous les éléments pour le prouver de manière factuelle et irréfutable. Le juge n'a pas voulu voir.
Alors, les avocats de l'activiste ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils faisaient appel de cette décision. En attendant de savoir si Paul Watson aura affaire ou non à la justice nippone, une pétition demandant sa libération a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. De son côté, la présidence française a demandé aux autorités danoises de ne pas l'extrader.
Dans un instant, on referme ce journal par l'actualité sportive et on retrouve ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Futur bachelier ou déjà titulaire du bac, tu cherches un diplôme Bac plus 3 ? Découvre le bachelor de l'école de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie. L'EGC, c'est une formation dynamique, un réseau professionnel solide et des opportunités de carrière avec 100% d'insertion après les études. Viens rencontrer nos apprenants et formateurs et plonge dans l'univers de l'EGC. Rendez-vous le 24 août pour nos portes ouvertes dès 9h. Plus d'infos sur www.egc.cci.nc ou au 24 31 40. EGC Nouvelle-Calédonie, inspirez demain.
Protégez ceux qui comptent le plus. Incendie NC, votre partenaire en sécurité sur l'ensemble du territoire. Formation, vente, maintenance, vous former peut sauver. Contactez-nous au 77 68 96 ou retrouvez-nous sur Normandie. Votre sécurité, notre priorité.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive avec Jean-François Baudin, mais on salue tout d'abord notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va commencer cette page sport, Léo Fichou, par ce chamboulement au classement général du Tour de France féminin.
Eh oui, la porteuse du maillot jaune favorite également, Demi Vollering, a été prise dans une grosse chute à 6 km de l'arrivée à Amnéville cette nuit, touchée au fessier à la hanche. La Hollandaise a finalement réussi à repartir, mais après cette cinquième étape, c'est désormais la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui s'empare du maillot jaune. Les Françaises Cédrine Kerbol et Juliette Labousse sont quatrième et cinquième à 45 57 et 56 secondes de la leader. Demi Vollering, elle chute à la 9e place avec 1 minute 19 de retard. Ce soir, 6e étape entre Remiremont et Morteau. 160 km accidentés au programme avec notamment 4 cols en seconde partie d'étape.
On passe au tennis et on part aux États-Unis pour la suite du 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Et sans grande surprise, il n'y a déjà plus de représentantes tricolores dans le tableau féminin. La dernière en lice, Varvara Grasheva, s'est inclinée en 3-7 contre la numéro 1 mondiale Iga Świątek. Chez les hommes, Arthur Fils s'est également incliné au 2e tour, une défaite en 2-7 contre l'Américain Brandon Nakashima. Gaël Monfils est donc le dernier Français encore en lice. Il affronte en ce moment le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz, mais le match vient d'être interrompu par la pluie alors que le Français avait perdu le premier set mais mené dans le tie-break au second.
Et il n'y a plus de représentants tricolores dans ce tableau féminin. Dans le tableau féminin de ce tournoi, la dernière en lice, Varvara Grasheva, s'est inclinée 3-7 face à la numéro 1 mondiale Iga Świątek. En tennis toujours, mais sur le territoire cette fois-ci, la finale hier soir du tableau féminin de l'Open du Receiving. Lindsay Motone-Kyriae a conservé son titre. Elle a battu Melody Dahl en 2-7, 6-2, 6-4. Le tournoi se poursuit chez les hommes qui en est au stade des 16e de finale. Et puis en golf, c'est la dernière journée du challenge des jeunes cagous. Compétition qui accueille des jeunes de 6 à 21 ans et qui se déroule depuis mardi sur le golfe de Tina. Aujourd'hui, c'est jour de finale. Ce matin avaient lieu les demi dans les catégories débutants et confirmés. C'est donc cet après-midi que se joueront les finales.